Nous lirons ce matin le texte d'évangile qui est proposé à la méditation des églises pour ce dimanche. C'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, les versets 24 à 43. Et c'est un grand discours de Jésus qu'il adresse à une foule rassemblée près de la mer et puis à ses disciples qui sont là aussi, un grand discours constitué de plusieurs paraboles. Donc en voici quelques-unes. Jésus leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. » Il leur proposa cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et il leur dit cette autre parabole, « Voici à quoi le royaume des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 séas de farine jusqu'à ce que tout est levé. » Tout cela, Jésus le dit en parabole aux foules. Il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Je prendrai la parole pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors Jésus laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples vinrent lui dire « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. » Les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Dans le langage populaire, il est resté de la parabole appelée dans les Bibles la parabole du bon grain et de l'ivraie, la plus grande des trois lues ce matin, il est resté une expression qui est justement « séparer le bon grain de l'ivraie » et vous l'avez certainement entendue. Elle signifie déjà distinguer entre le bien et le mal, voire entre les bons et les méchants, distinction qui est le fruit d'un discernement. Mais pas seulement distinguer, il s'agit aussi de séparer, mettre le bon grain d'un côté et l'ivraie de l'autre. Agir donc, agir efficacement. et si possible, même si ce n'est pas explicite, se débarrasser de l'ivraie, du mal, du mauvais, peut-être des méchants. Évidemment aussi, tout dépend du point de vue adopté, c'est-à-dire du critère de discernement entre bien et mal, entre bon et méchant. Mais bon, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est pourtant exactement ce que les serviteurs de l'homme qui avait semé le bon grain dans son champ ne doivent pas faire. L'expression populaire, bien qu'issue de la parabole, la contredit complètement. C'est peut-être là le signe du désir bien humain de faire quelque chose face au mal, au mauvais, au méchant. C'est impossible de rester les bras croisés, impossible d'attendre passivement la fin des temps, le jugement final, si tant est qu'on y croit, car le Nouveau Testament n'est pas univoque sur cette question. Mais enfin, dans le monde, aujourd'hui, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut agir, s'engager et prendre part à la lutte, à la résistance contre le mal. Il faudrait être particulièrement dépourvu de conscience pour laisser le mal qu'on peut empêcher. Et si justement nous avons une conscience, c'est bien pour pouvoir discerner autant que possible le bien du mal. Mais alors pourquoi la parabole va-t-elle à rebours de ce désir légitime d'agir pour arracher le mal qui a pris place, qui pousse dans le champ du monde? Cette présence du mal dans le monde, c'est ce que nous voyons. C'est bien ce que nous éprouvons chaque jour, comme nous comprenons aussi comme notre vocation de ne pas laisser faire, de protester, de résister, de s'investir d'une manière ou d'une autre contre le mal et ses effets, pour le bien et ses fruits. Et c'est ce que font peut-être encore des paysans lorsque l'ivraie commençait à s'installer dans un champ de blé, ils l'arrachaient afin qu'elle ne gâche pas toute la récolte et ne mette pas en danger ceux qui mangeraient le pain produit avec la farine. Car l'ivraie est une plante dangereuse, elle est souvent infestée par un champignon qui produit une substance provoquant, un peu comme l'ergot de seigle, des vertiges, des délires, des hallucinations, une sorte d'ivresse que traduit le nom latin de l'ivraie, ébriaca. Le nom grec est lui aussi fort intéressant, parce qu'en grec, l'ivraie, ça se dit zizanie. Et nous voyons tout de suite très bien de quoi il s'agit. Et comment l'expérience agricole de l'invasion d'un champ de blé par la zizanie, capable de gâcher une récolte entière, a pu devenir une image de ce qui gâche tant de relations humaines. Cette mauvaise graine est une graine de discorde, de dispute, de division, d'hostilité. C'est que, chers amis, les paraboles prennent appui sur des expériences humaines universelles, que chacun peut comprendre, que chacun peut reconnaître dans sa propre expérience de vie. Comme les serviteurs de la parabole, nous constatons la présence et l'œuvre du mal dans le monde, le mal coexistant avec le bien. Nous voulons agir contre le mal ou les méchants afin que le bien se déploie au maximum. Nous en appelons à Dieu afin qu'il nous aide dans cette œuvre parce que nous craignons l'échec. Et nous savons aussi qu'en nous se mêlent bonnes et mauvaises graines et que nos bonnes intentions peuvent dériver en totale zizanie. Nous aimerions tout connaître sur le bien et le mal et puis être plus forts que le mal, toujours. Les paraboles parlent le langage de notre existence, avec le découragement, la joie, la crainte, l'espérance. Elle s'adresse à l'ensemble de notre être. Et chacun peut entendre la parabole dans sa propre existence puisqu'elle nous parle de nous. Et nous avons l'intelligence nécessaire pour le reconnaître. Comme les foules et les disciples l'avaient aussi, c'est pourquoi Jésus les raconte. C'est pourquoi nous les lisons encore, ces paraboles. Ces histoires qui rejoignent chacune de nos histoires personnelles, mais cela sans jamais nous forcer à quoi que ce soit, toujours en respectant notre liberté. Lorsque Jésus parle en paraboles, ce n'est pas pour distraire son auditoire, ce n'est pas pour ranimer l'attention de ceux qui l'écoutent, ce n'est pas un truc de communication. Les paraboles représentent un enseignement. Et dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, Jésus enseigne la foule et les disciples au sujet du règne des cieux. Dans ce chapitre, je vous invite à aller le lire d'un bout à l'autre, il n'y a pas moins de 7 paraboles qui parlent du règne des cieux, comme d'un semeur qui sort pour semer, comme d'un homme qui sème de bonnes graines, d'une graine de moutarde, comme du levain dans la pâte, comme d'un trésor caché dans un champ, comme d'un marchand qui cherche des perles fines, comme d'un filet jeté à la mer. Une cascade de paraboles pour parler du règne qui ne se définit pas, mais qui se donne à ressentir à travers ces paraboles quand on peut y lire nos propres existences, nos propres expériences, et quand on entend à quoi elles nous ouvrent. Mais comment, à quoi ressentir ce règne des cieux, puisque le maître de maison ne permet pas aux serviteurs d'arracher l'ivraie qui se mêle aux épis, puisque les serviteurs n'ont rien à faire sinon attendre l'heure de la moisson, et alors d'autres qu'eux viendront séparer le bon grain de l'ivraie. Nous pouvons bien nous tourner vers l'explication de la parabole que les disciples réclament à Jésus un peu plus tard, et que Jésus leur donne d'ailleurs, mais franchement, nous ne sommes pas plus avancés. Car il faut bien le dire, cette explication n'éclaire pas grand-chose. Il s'agit d'une allégorie minimale, une série de correspondances, le champ c'est le monde, les moissonneurs ce sont les anges, etc. Mais il manque quand même la correspondance des serviteurs qui disparaissent de l'explication. Alors des serviteurs désœuvrés à des serviteurs disparus, nous voici quand même en bien inconfortable posture, est toujours aussi ignorant de ce que la parabole peut bien affirmer au sujet du règne des cieux et à notre sujet en ce qui concerne le règne des cieux. Si le règne des cieux doit attendre la fin du monde et la fin des temps, eh bien, soit Jésus pensait que celle-ci était imminente, ce en quoi il s'est bien trompé, comme Albert Schweitzer l'a fait remarquer, je crois, le premier, soit il est urgent de ne rien faire en attendant cette fin du monde, puisque l'issue ne laisse guère de doute, même au travers de ces images d'anges moissonneurs et de fournaises de feu, images qui ont fait froncer les sourcils de quelques-uns d'entre vous, j'ai vu. Le langage apocalyptique n'est plus le nôtre. Mais enfin, ce que dit la parabole, c'est que la moisson sera faite, qu'elle sera bonne, que le mal sera éliminé, et que rien de cela ne dépend de nous autres humains. Mais ce n'est pas de n'importe quel faire dont il est question, celui qu'il ne faut pas faire. Ce n'est même pas de tout ce qu'il est possible de faire devant la présence du mal. Et heureusement, il ne s'agit pas de laisser faire le mal. Ce n'est pas de toute action contre le mal dont il est question. Il est indispensable que nous agissions. Mais une chose... C'est un fer particulier qui est pointé par la parabole, un fer posé comme un interdit. Non, n'arrachez pas l'ivraie, ne triez pas le bon grain de l'ivraie. Et cela, dès maintenant. Alors nous pouvons comprendre que même si la parabole et son explication focalisent sur la fin du monde, la fin des temps, Jésus enseigne ses disciples sur le maintenant de leur existence. Et que certainement, le règne, non, n'est pas pour plus tard. Il n'est pas pour plus tard, il n'est pas non plus dans le passé, dans un paradis qui serait perdu. Il se manifeste dans le présent, Il peut survenir dans le présent, dans une dimension autre que les dimensions qui caractérisent le monde, notre monde. Nous envisageons plus souvent la proximité du règne annoncé par Jésus, le règne qui advient par Jésus, en lui, qui est manifesté, qui est révélé par ses actes et par ses paroles, sur un mode positif, à travers l'amour, le pardon, l'hospitalité, la solidarité et la confiance. La parabole du bon grain et de l'ivraie, qui ne dessine pas tout du règne, parle, elle, de quelque chose à éviter. Parce que certainement, ce qui est à éviter se produit de mille manières et en mille circonstances dans notre monde. Et c'est trier. Trier les uns et les autres, les bons et les mauvais. Trier, trancher, classer, ranger, étiqueter, évaluer, départager, juger et condamner. Un désir spontané, quasiment naturel, mais qui est aussi enseigné aux humains que nous sommes et dès l'enfance, toute une façon de regarder, de penser, d'agir, et qui trouve tant de défenseurs, y compris avec des raisons qui semblent bonnes, valables, légitimes quand il s'agit d'agir pour le bien, et y compris parmi les religieux au temps du 1er que du 21e siècle. Mais nous voyons bien aussi comment évaluer, trier, juger, condamner est une attitude répandue et même plus que cela, elle imprègne en profondeur les structures des sociétés. En fonction de différents critères d'origine, de parcours, de famille, de compétences, d'orientation sexuelle, de manière de croire, de couleur de peau. Nous savons bien que ce regard particulier porté sur autrui, cette manière de faire, sont forcément le fruit d'une position en surplomb par rapport à l'autre, celui que l'on juge, et une position qui ne se reconnaît pas toujours comme telle, persuadée qu'elle est d'être seulement du côté du bien, du bon. Mais alors ce qui se passe, c'est que toutes les vies ne comptent pas autant les unes que les autres. Jésus ne se contente pas de dire la parabole. Il indique en quoi le tri des uns et des autres, en quoi le jugement des uns par les autres s'oppose à l'advenue du règne. De même que la parabole parle de la fin des temps de manière oblique, Jésus évoque, lui, la fondation du monde, l'autre bout, à l'aide d'une citation du psaume 78. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. Je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Mais on peut quand même se demander, chers amis, si les choses cachées depuis la fondation du monde le sont véritablement. Parce qu'il y a quand même une chose de la fondation du monde qui n'est pas du tout cachée, qui est proclamée, écrite même depuis fort longtemps, déjà écrite dans les premières pages du livre de la Genèse, fondation du monde, non pas contre la science évidemment, mais pour le sens. Et un sens qui n'est pas caché comme un secret que personne ne doit découvrir, sauf peut-être quelques appelés bien sélectionnés, mais caché parce que chacun doit le découvrir pour lui-même. Nous pouvons tous lire le livre de la Genèse, au chapitre 3, lorsque le serpent dit à la femme, qui discute quand même l'invitation du serpent à manger le fruit défendu, le serpent lui dit, « Vous serez comme Dieu. » Cela s'appelle une tentation. Plus précisément, c'est la tentation. La tentation de se prendre pour Dieu. Celle de vouloir abandonner sa condition de créature, abandonner la condition humaine, ou la dépasser pour devenir plus au-dessus. Quitter la terre pour aller toucher les cieux, domaine du divin. C'est la tentation, Cette tentation qui est aussi présentée à Jésus au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, lorsque le diable lui propose de changer les pierres en pain, de se jeter du haut du temple, de régner sur tous les royaumes du monde. Bien sûr, il y a un prix, mais le diable du récit le fait passer pour tellement dérisoire, à peine une note en bas de page, face à la perspective d'être au-dessus de tous. Se prendre pour Dieu. C'est aussi ce que les religieux proposent à Jésus dans l'évangile de Jean, lui amenant une femme adultère, d'être maître de la vie ou de la mort de cette femme. Se prendre pour Dieu. Quand Jésus enseigne à ses disciples comment prier, la prière comporte cette demande. Dans l'évangile selon Matthieu, ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Alors on peut entendre la tentation comme un générique qui engloberait toutes sortes de tentations, toutes celles que l'on pourrait rencontrer. Mais peut-être que la tentation, c'est justement seulement celle-là, celle de se prendre pour Dieu, parce que c'est celle-là qui fait obstacle à l'advenue du règne. Jésus n'offre pas un savoir sur le règne des cieux. Il invite à renoncer à se prendre pour Dieu. Et ce renoncement est à reprendre encore et encore de nombreuses fois tout au fil de nos vies. Jésus le Christ ne fait pas de nous des sachants, des initiés, des possesseurs de secrets ou de pouvoirs, ni même des maîtres qui maîtrisent. Il nous invite à assumer d'être seulement humains. Humain avec ce que l'humanité comporte de vulnérabilité, oui. Humain parfois déstabilisé que leur désir de maîtrise, de savoir soit ainsi battu en brèche, qu'ils soient invités à l'abandonner, que leur certitude n'en soit pas. Mais des humains capables d'écouter, c'est-à-dire capables d'une autre manière de se comprendre, de penser et d'agir. Et de ne pas juger. Le règne des cieux est comme un homme qui laisse tout pousser et qui a des serviteurs, qui n'arrache rien ni personne. Pensons-y.